passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Où est passé Paris ma rose? Paris sur Seine la bouclée. Sont partis en portant la clé, les nonchalants du long des quais. Paris ma rose, où sont-ils passés, Villon et ses filles? Où est-il passé, Genin, l'avenue? Et le chemin vert qu'est-il devenu, lui qui serpentait près de la Bastille? Où est passé Paris la grise, Paris sur brume la mouillée? Les partis, Paris l'oublié, parti sur la pointe des pieds, Paris la grise. Où sont-ils passés ceux qui fraternisent avec les murailles et les graffitis? Ces soleils de craie, où sont-ils partis qui faisaient l'amour au mur des églises? Où est passé Paris la rouge, la commune des sans-souliers? C'est perdu vers Aubervilliers, ou vers Nanterre, l'embourbé, Paris la rouge. Où est-il passé Clément des cerises? Est-elle fermée la longue douleur du temps où les gars avaient si grand cœur qu'on ne voyait que lui au trou des chemises? Où est passé Paris que j'aime, Paris que j'aime et qui n'est plus?
Dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien, moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, libre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée, à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible, à tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
89.4, Radio Libertaire, et nous sommes au grand soir du mardi, l'émission du groupe Libertaire La Rue. Alors, le mois dernier, nous vous avions abondamment présenté un livre qui nous a beaucoup impressionné, Thérèse et moi, que nous pensons important, qui s'appelle « Portrait du pauvre en habit de vaurien » de Michel Husson, paru aux éditions Sileps. Alors, ce livre est le résultat d'années de recherche par Michel Husson, qui était économiste et statisticien, et expose les théories d'intellectuels, économistes, scientifiques, statisticiens, philosophes, essentiellement du 19e siècle, essentiellement britanniques, qui, au travers des théories du darwinisme, de l'eugénisme, du malthusianisme et autres, ont légitimé un ordre, l'ordre social du capitalisme triomphant du début de la société industrielle, ont criminalisé la pauvreté, rendu les pauvres responsables de leur misère, et ont développé au lieu comme ambition, au lieu de s'attaquer à la pauvreté, de s'attaquer aux pauvres avec une virulence incroyable.
Et les considérer comme responsables de leur sort.
Voilà, les pauvres étant considérés comme des êtres profondément vicieux et responsables de leur sort. Alors ce qui nous a frappé en lisant ce livre, c'est à quel point ces propos sont repris actuellement. Alors pas dans des formes aussi brutales, encore que, enfin bon... Voilà, mais sont repris depuis quelques années, et particulièrement par Macron, pour perpétuer cette logique, à savoir que il faut que les pauvres sont responsables de leur sort, qu'ils ne sont rien, éventuellement, qu'ils n'ont qu'à traverser la rue. Qu'on n'a pas dépensé un pognon de dingue pour eux. Enfin, on voit à quel point on est aujourd'hui dans la même logique de criminalisation et voire de en sous-texte, si on va très très loin, du problème de que faire des gens qui sont devenus inexploitables, donc éventuellement s'en débarrasser. Voilà.
Oui. Et ces idées du 18e, fin 18e, 19e siècle, en fait, ce sont quand même ces idées-là qui ont nourri le nazisme, et les nazis ont essayé de mettre en acte ces idées-là à travers donc l'extermination des populations considérées comme déficientes, etc., etc.
Laquelle extermination, d'ailleurs, des populations déficientes était aussi mise en œuvre aux États-Unis.
Oui.
En Angleterre, était fortement recommandée, en particulier par Churchill, qui, rappelons-le, était quand même une épouvantable canaille. Voilà, c'est-à-dire que ça n'a pas seulement été des vœux pieux, mais ça a été mis en œuvre.
Voilà. Et aujourd'hui, donc, c'est ce que nous disions à la fin de la dernière émission sur le sujet. Aujourd'hui, on l'écrit moins, ou pas. On en parle moins, ou pas. Mais aujourd'hui, on le met en acte.
Exactement. Au travers de différentes lois qui, par exemple, diminuent le montant et la durée des indemnisations de chômage, s'attaquent aux prestations sociales, aux mesures qui visent aussi à détruire l'hôpital public, ce qui va effectivement, quand les pauvres ne se soigneront plus, ça c'est sûr que ils vivront moins longtemps, et ça sera une mise en application des théories de Darwin sur la survie des plus aptes. On a peut-être plus tellement besoin d'un système de santé performant, dans la mesure où on a moins besoin de bras.
Clairement.
Voilà.
Et Donc, en fait, le darwinisme social, on va vous parler maintenant de la relation entre le darwinisme classique, le darwinisme social et l'antiféminisme. Voilà.
Alors là aussi, on a des trucs qui sont absolument gratinés. Alors, en particulier, de Darwin, dont je ne sais pas si c'est dans son livre sur la sélection naturelle, mais bon. Alors, Darwin assimile les facultés propres aux femmes, intuition, perception rapide et peut-être imitation, à celles des races inférieures. Alors là, je cite. Quelques-unes au moins de ces facultés caractérisent les races inférieures. Elles ont par conséquent pu exister un état de civilisation inférieure. Voilà. Alors il y a toutes les théories plus ou moins biologiques sur la différence de capacité crânienne et des femmes et des races inférieures. Alors il y a des trucs qui sont absolument épouvantable. Attendez que je vous retrouve ça.
Oui, c'est à la page 142. Il omet de citer la phrase précédente où Vogt affirme qu'en général le type de crâne féminin se rapproche sous plusieurs rapports du crâne de l'enfant et encore plus de celui des races inférieures qui allait pourtant dans son sens. Voilà. Donc, oui. La femme est considérée donc comme un être inférieur avec un crâne qui est plus petit. Évidemment, ça fait penser évidemment à toutes les mesures faites par les nazis, évidemment. Voilà. Il y a donc une hiérarchie entre les races et le darwinisme. Michel Husson donc explique évidemment les dérives du projet eugéniste qui légitime la supériorité des hommes donc sur les femmes qui sont elles-mêmes donc comme tu viens de le dire Elisabeth avalisées hein, mises en état d'infériorité par chez Darwin déjà.
Voilà. Donc les femmes, pour toutes sortes de raisons pseudo-scientifiques, étaient considérées comme plus proches des animaux.
Oui.
Évidemment, des races inférieures qui elles-mêmes étaient très très proches des animaux. Voilà.
Et d'ailleurs, il dit, je cite Darwin, « L'homme atteint, dans tout ce qu'il entreprend, un point auquel la femme ne peut arriver. Quelle que soit d'ailleurs la nature de l'entreprise. » Qu'elle exige ou non une pensée profonde, la raison, l'imagination, ou simplement l'emploi des sens et des mains. Merci pour nous. Voilà.
Donc voilà, donc aussi toutes ces théories scientifiques, enfin, ce qu'on appelait scientifiques, donc légitimaient aussi la domination masculine. Voilà, il y avait à l'époque quand même, il faut le souligner, un homme qui était assez remarquable, qui s'appelait John Stuart Mill, et qui était un des rares intellectuels à soutenir l'inverse et à en ce qui concerne les femmes, oui, et à soutenir que l'infériorité entre guillemets des femmes était due à la manière dont elles étaient socialisées. Voilà, mais c'était extrêmement rare. Voilà. Alors, voilà, il disait quand même John Stuart Mill, un peu comme ce que écrirait plus tard Simone de Beauvoir, ce qu'on appelle aujourd'hui la nature de la femme est un produit éminemment artificiel. C'est le résultat d'une compression forcée dans un sens et d'une stimulation contre nature dans un autre. C'est tout à fait remarquable. Voilà. Alors, donc.
Alors ça, c'est pour ce qui concerne donc.
Voilà, mais il y a encore d'autres trucs qui sont pas assez.
Chez les Anglais, par exemple, la question de l'eugénisme chez les penseurs anglais, c'est pas vraiment mieux, hein, et cela prend des formes parfois extrêmement brutales. Il y a Herbert George Wells, il y a Keynes, il y a Bertrand Russell. Qui ont des positions progressistes, pour la plupart, sur beaucoup de plans, ou bien qui ont eu partie liée avec la Cambridge University Eugenistic Society, comme Keynes.
Oui, alors il faut savoir que ces gens-là que Thérèse vient de citer, donc H.G. Wells, l'auteur bien connu de La machine à remonter le temps, Keynes, l'économiste John Maynard Keynes, qui est vraiment un économiste extrêmement progressiste et qui est plutôt l'idole d'une gestion de dépenses sociales de l'État-providence, qui est plutôt une idole de la gauche.
Oui, c'est un maître à penser chez les socialistes,
tout par exemple. Tout à fait. Bertrand Russell, qui était un grand humaniste, qui a donné son nom au fameux tribunal Bertrand Russell, qui, dans la fin des années 60, a jugé... organiser ce procès symbolique avec Sartre pour juger les crimes des Américains pendant la guerre du Vietnam. Et en fait, tous ces gens-là, étaient plus ou moins, à certains aspects, totalement d'accord avec le génisme. Voilà.
Clairement.
Et à côté de leur dimension progressiste,
Et d'ailleurs, à la page 187, je crois, je reprends
je tombe là, sur, on se mélange un peu les crayons, hein, parce qu'il y a tellement de trucs. Alors, donc Wells, l'auteur de La machine à explorer le temps, écrit la chose suivante. Les gens qui n'ont pu s'adapter aux nécessités nouvelles provoquées par le développement du mécanisme, ce sont les travailleurs rejetés de tout emploi effectif par la machine, par l'exode des industries vers des lignes de communication nouvellement ouvertes en des lieux éloignés. Donc ces gens-là sont devenus totalement inexploitables. C'est une phrase qui est extrêmement actuelle. Alors, il écrit toujours, Wells, dans ce remous du labeur supplanté par la machinerie, se précipite le résidu non adaptable de tous les commerces et industries transformées. Ces résidus s'accouplent et se reproduisent. Il s'y ajoute des recrues fournies par les prodigues, les faibles, les faillis de toutes les classes supérieures. Donc quand même, Wells parle des travailleurs supplantés par la machine comme de résidus.
Oui.
Voilà. Ensuite...
Il y a une citation sur la préconisation de la stérilisation chez Wells à la page 187.
Il y en a une autre avant, excuse-moi.
Oui, je t'en prie. Oui.
Alors, avec la morale présente réellement horrible, le fait qu'un individu chétif, malvenu, crapuleux et abject, absolument incapable de gagner même pour lui seul un salaire suffisant, s'unit à une femme chétive, famélique, ignorante, laide et difforme, et qu'à eux deux, ils se rendent coupables de donner le jour à 10 ou 12 rejetons souffreteux et repoussants, est considéré comme un spectacle extrêmement édifiant.
Rappelons que c'est un progressiste.
Et c'était un progressiste, oui.
C'était un progressiste.
Alors, donc, Thérèse, t'allais lire un truc
oui,
aussi.
À la page 187, par exemple, il préconise la stérilisation. Je crois que la sélection consciente des meilleurs pour la reproduction est aujourd'hui impossible, et qu'il en sera toujours ainsi. La voie de la nature a toujours été d'éliminer les inférieurs. Et il n'y a toujours pas d'autre moyen, sauf si nous pouvons empêcher la naissance des inférieurs. C'est dans la stérilisation des échecs et non dans la sélection des succès que réside la possibilité d'une amélioration du genre humain.
Donc voilà,
il n'y a pas photo.
Voilà.
Je ne sais pas si... En fait, je réagis parce que... à la lecture de ce bouquin, en fait, je vous avoue que j'en croyais pas mes yeux, en fait. Cette approche totalement décomplexée, où les plus grands penseurs, ceux qu'on nous enseigne dans les universités, dans les grandes écoles, etc., en nous les présentant comme des parangons du socialisme, sont des gens qui ont non seulement souhaité, écrit, préconisé la mise à mort organisé de tout ce qu'il considère comme étant des sous-hommes. En fait, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Oui, enfin, quand on voit que Wells parlait donc de résidus humains, c'est quand même assez extravagant. Et encore une fois, Keynes,
oui,
donc cet économiste progressiste, faisait partie de la Cambridge University Eugenics Society, donc il faisait partie d'une société de promotion de l'eugénisme et préconisait une solution à la multiplication des pauvres et des mal foutus. Voilà.
Oui, et d'ailleurs Macron a déposé un amendement toujours sur cette question de l'eugénisme ou de l'impossibilité ou de la nécessité de l'impossibilité la procréation pour un certain nombre de gens. Donc il a déposé un amendement pour réserver la PMA à ceux qui pouvaient justifier d'un revenu suffisant.
Voilà.
Page
alors
188.
C'était pas Macron directement, mais une députée macroniste.
Oui, bon, le macronisme.
Oui, voilà, qui s'appelait
Béatrice Piron.
Comment, voilà.
Béatrice Piron.
Oui, oui, oui. Et
donc,
voilà,
pour le parti présidentiel français, qui avait, par exemple, déposé un amendement qui a été heureusement repoussé, nous dit Husson, proposant de réserver la PMA, procréation médicalement assistée, à celles qui, je cite, « peuvent justifier de revenus susceptibles de permettre leur subsistance à celles de l'enfant à naître ». Voilà.
Voilà.
C'est quand même extraordinaire.
Oui, oui. Et alors, donc, Bertrand Russell, aussi, ce grand humaniste, était un eugéniste convaincu. Il décrivait la chose suivante. En Amérique et en Grande-Bretagne, le fétiche de la démocratie fait obstacle à l'eugénisme, donc.
Oui,
En Russie, c'est la défiance marxiste à l'égard de la biologie. Partout, l'Église catholique est puissante. Seule la quantité tend à être considérée comme importante. En France, le système économique qui s'est développé autour du Code Napoléon rend impossible toute réforme eugénique. La meilleure chance se trouve probablement en Allemagne. C'est quand même...
extraordinaire.
C'est quand même affolant. Alors, il écrit aussi, Bertrand Russell, donc notre grand
sur les femmes en particulier.
Alors, sur les femmes faibles d'esprit sont, comme chacun le sait, susceptibles d'avoir un nombre considérable d'enfants illégitimes, qui sont tous, en règle générale, sans aucune valeur pour la communauté. Ces femmes seraient elles-mêmes plus heureuses si elles étaient stérilisées. Car ce n'est pas par amour des enfants qu'elle tombe enceinte.
Et il y a aussi la question raciste, en
voilà,
plus.
Voilà, qui est aussi pour ne rien arranger. Il semble juste de considérer les nègres comme en moyenne inférieurs aux blancs, bien que pour le travail sous les tropiques, ils soient indispensables. De sorte que leur extermination serait hautement indésirable. Quand même, il faut qu'ils travaillent sous les tropiques. Et puis alors, il dit encore des trucs qui est absolument... En fait, il prônait déjà, Bertrand Russell, le transhumanisme. Alors...
Oui, ah oui, il y a un truc... citation, page 194, à la fin, qui est extraordinaire. « Un choix approprié de produits chimiques à injecter dans l'utérus permettra peut-être de transformer un enfant en mathématicien, en poète, en biologiste, voire un homme politique, et de faire en sorte que toute la postérité fasse de même. »
Voilà.
C'est extraordinaire.
Donc, et ça, moi je l'ai complètement découvert. Hein, et Thérèse aussi, on ne savait pas que ces figures progressistes...
Ah non, on m'a toujours présenté dans mes études ces personnes comme étant vraiment des êtres exceptionnels, humanistes, enfin, etc. quoi. Donc, effectivement, ce livre, il faut quand même dire que Husson a fait un travail absolument considérable. Il a travaillé pendant des années. Tout repose sur des archives. Toutes les citations qu'il donne sont rigoureusement exactes et toutes vérifiables. C'est très important. Franchement, nous vous invitons à lire ce livre parce que, voilà, il fait un peu plus de 300 pages, mais qui se lit, voilà.
Alors, malheureusement, d'ailleurs, il est mort, je crois. Il n'avait pas terminé de rédiger ce livre. Je crois que son travail a été repris par des collègues à lui.
Oui,
il est mort d'une manière accidentelle, je crois, d'un accident.
C'est la dernière partie du livre qui n'a pas été terminée.
C'est ça. Donc, il a quand même... consacrer une grande partie, les dernières années de sa vie intellectuelle à ses recherches.
Et donc, à partir de ses notes, effectivement, ils ont mis en place la dernière partie de son ouvrage.
Voilà.
Voilà.
Alors, évidemment aussi, toutes ces joyeusetés, bah, on l'a déjà évoqué, mais...
Ah oui,
mais justifie la théorie sur l'infériorité de... des races, et surtout enfin la supériorité de la race européenne, encore une fois au moment où on s'engageait dans la colonisation, voilà. Donc eh ben on va faire une coupure musicale et on reprend.
Aujourd'hui sera le dernier jour de mon existence, la dernière fois que je ferme les yeux, mon dernier silence. J'ai longtemps cherché la solution à ces nuisances, ça m'apparaît maintenant comme une évidence. Fini d'être une photocopie, fini la monotonie, la lobotomie. Aujourd'hui, je mettrai ni ma chemise ni ma cravate. J'irai pas jusqu'au travail, je donnerai pas la patte. Adieu les employés de bureau et leur vie bien rangée. Si tu pouvais rater la tienne, ça les arrangerait. Ça prendrait un peu de place dans leur cerveau étriqué. Ça les conforterait dans leur médiocrité. Adieu les représentants grassouillés qui boivent jamais d'eau comme s'ils voulaient pas se mouiller. Les commerciaux qui sentent l'aftershave et le cassoulet. Mettent la mayonnaise sur leur mallette, ils se la boufferaient. Adieu, adieu les vieux comptables séniles. Adieu les secrétaires débiles et leurs discussions stériles. Adieu les jeunes cadres fraîchement diplômés qu'empileraient les cadavres pour arriver jusqu'au sommet. Adieu tous ces grands PDG. Essaie d'ouvrir ton parachute doré quand tu te fais défenestrer. Ils font leur peur sur des salariés désespérés et jouent les vierges effarouchées quand ils se font séquestrer. Tous ces fils de quelqu'un, ces fils d'une pute snob qui partagent les trois quarts des richesses du globe. Adieu ces petits patrons, ces pauvres bourgeoisés qui grattent les RTT pour payer leurs vacances d'été. Adieu les ouvriers, ces produits périmés. C'est la loi du marché mon pote, t'es bon qu'à te faire virer. Ça t'empêchera d'engraisser ta gamine affreuse qui se fera sauter par un pompier qui va finir coiffeuse. Adieu la campagne et ses familles crasseuses proches du port au point d'attraper la fièvre rafteuse. Toutes ces vieilles, ces commères qui se bouffent entre elles, ces vieux radins et leurs économies bout de chandelle. Adieu ces France profondes, profondément stupides, cupides, inutiles, putrides. C'est fini, vous êtes en retard d'un siècle. Plus personne n'a besoin de vos bandes d'inceste. Adieu tous ces gens prétentieux dans la capitale qui essaient de prouver qu'ils valent mieux que toi chaque fois qu'ils te parlent. Tous ces connards dans la pub, dans la finance, dans la com, dans la télé, dans la musique, dans la mode. Ces parisiens jamais contents, médisants, faussement cultivés, à peine intelligents. Ces réplicants qui pensent avoir le monopole du bon goût, qui regardent la province d'un œil méprisant. Adieu les sudistes abrutis par leur soleil cuisant. Leur seul but dans la vie c'est la troisième mi-temps. Accueillant, soi-disant, ils pèsent avec le sourire. Tu peux le voir à leur façon de conduire. Adieu, adieu ces nouveaux fascistes qui justifient leur vie de merde par des idéaux racistes. Devenu néo-nazi parce que t'avais aucune passion. Au lieu de jouer les SS, trouve une occupation. Adieu les piranhas dans leur banlieue qui voient pas plus loin que le bout de leur haine, au point qu'ils se bouffent entre eux, qui deviennent agressifs une fois qu'ils sont à 12. Seuls, ils lèveraient pas le petit doigt dans un combat de pouce. Adieu les jeunes moyens, les pires de tous. Ces baltrins ne supportent pas la moindre petite secousse. Adieu les fils de bourges qui possèdent tout mais savent pas quoi en faire. Donne-leur l'Éden, ils t'en font un enfer. Adieu tous ces profs dépressifs. T'as raté ta propre vie, comment tu comptes élever mes fils? Adieu les grévistes et leur CGT qui passent moins de temps à chercher des solutions que des slogans pétés. Qui fouettent la défaite, tu survêtes au visage. Transforme n'importe quelle manif en fête au village. Adieu les journalistes qui font dire ce qu'ils veulent aux images. Vendraient leur propre mère pour écouler quelques tirages. Adieu la ménagère devant son écran, prête à gober la merde qu'on lui jette entre les dents. Qui pose pas de questions tant qu'elle consomme. Qui s'étonne même plus de se faire cogner par son homme. Adieu ces associations bien pensantes, ces dictateurs de la bonne conscience, bien contents qu'on leur fasse du tort. C'est à celui qui condamnera le plus fort. Adieu lesbiennes refoulées, surexcitées, qui cherchent dans leur féminité une raison d'exister. Adieu ceux qui vivent à travers leur sexualité. Danser sur des chariots, c'est ça votre fierté. Les bisounours, c'est leur pouvoir de l'arc-en-ciel, qui voudrait me faire croire qu'être hétéro, c'est à l'ancienne. Tellement,
t'es tellement susceptible. Pour prouver que t'es pas homophobe, faudra bientôt que tu suces des types. Adieu ma nation, tous ces incapables dans les administrations, ces rois d'inaction, avec leurs bâtiments qui donnent envie de vomir, qui font exprès d'ouvrir à des heures où personne peut venir. Mais tous ces moutons pathétiques changent une fonction dans leur logiciel, ils se mettent au chômage technique. À peu près le même QX et saletés de flics, qui savent pas construire une phrase en dehors de leur sale réplique. Adieu les politiques, en parler serait perdre mon temps. Tout le système est complètement incompétent. Adieu les sectes, adieu les religieux, ceux qui voudraient m'imposer des règles pour que je vive mieux. Adieu les poivrons qui rentrent jamais chez eux, qui préfèrent se faire enculer par la française des jeux. Adieu les banquiers véreux, le monde leur appartient. Adieu tous les pigeons qui leur mangent dans la main. Je comprends que j'ai rien à faire ici quand je branche la 1. Adieu la France de Joséphine Ange gardien. Adieu les hippies, leur naïveté qui changera rien. Adieu les SM libertins et tous ces gens malsains. Adieu ces pseudo-artistes engagés, plein de banalités, démagogues dans la trachée. Écouter des chanteurs faire la morale, ça me fait chier. Essayer d'écrire des bonnes paroles avant de la prêcher. Adieu les petits mongols qui savent écrire comme abrégé. Adieu les sans-papiers, les clochards, tous ces tas de déchets. Je les hais, les sportifs, les hooligans dans les stades, les citadins, les bouseux dans leur état. Les marginaux, les gens respectables, les chômeurs, les emplois stables, les génies, les gens passables. De la plus grande crapule à la médaille du mérite, de la première dame au dernier trace du pays.
89.4, Radio Libertaire, le grand soir du mardi, l'émission du groupe Libertaire La Rue, et nous poursuivons notre présentation du livre de Michel Husson, Portrait du pauvre en habit de vaurien, aux éditions Sileps. Alors, les horreurs continuent. Là, on arrive à un chapitre sur la race, et Husson nous parle de Tocqueville. Tocqueville aussi, qu'on imaginait pas trop...
Centre de la démocratie.
Voilà. Et qui
libéral.
En fait, voilà. Bon, et qui en fait était...
Lui, il discernait à la race européenne une supériorité sur toutes les autres. Et il y a une citation, par exemple, qui dit « La race européenne, écrivait-il, a reçu du ciel ou a acquis par ses efforts une si incontestable supériorité sur toutes les autres races qui composent la grande famille humaine que l'homme placé chez nous, par ses vices et son ignorance, au dernier échelon de l'échelle sociale, est encore le premier chez les sauvages. »
Voilà. Alors, il y avait d'autres personnages. Alors là, français, oui, évidemment. Mais, également des Français, comme Armand de Quatrefages. Alors, oui, qui était anthropologue, oui. Qui a contribué à l'introduction du darwinisme en France, alors que c'était pas tellement... c'était pas très populaire, quoi.
Et puis...
à cause du catholicisme... et de l'idée de l'origine que l'homme descend du singe, ça paraissait assez inadmissible.
Et on arrive à Chamberlain. Voilà. Stewart Chamberlain, qui était un essayiste britannico-allemand, principalement connu en tant que théoricien raciste. Il adhère à l'idée pan-germaniste, la race germanique est le pilier de la civilisation. Je donne une citation. « Sans le germain, explique Chamberlain, une nuit éternelle eut envahi le monde. Sans l'incessante résistance des non-germains, sans la guerre implacable que font encore aujourd'hui à tout ce qui est germanique, les représentants jamais exterminés du chaos ethnique, nous eussions atteint un degré de culture bien supérieur à celui qu'a connu le XIXe siècle. » Voilà. Par conséquent, les Aryens surpassent tous les hommes, et à la fois corporellement et psychiquement. Donc, en bonne justice, ils sont les maîtres du monde. Page 685. Voilà. De son ouvrage, donc, et je citais Stewart Chamberlain.
Voilà.
Et il remercie Hitler, d'ailleurs.
Et qu'est-ce qu'il dit sur,
sur
Hitler ?
À la page 203 du livre de Husson, il dit... je rappelle qu'en 1923, Chamberlain recevra la visite de Hitler dans sa résidence de Bayreuth,
Voilà. Alors, encore une fois, c'est pas Neville Chamberlain, hein, c'est pas le monsieur de Munich.
C'est Stewart.
C'est, voilà.
Et il lui écrit, donc il le remercie de cette visite, et il lui écrit une lettre d'hommage. Je cite une partie de cette lettre. Ma foi dans l'identité allemande n'a jamais faibli un seul instant, même si, je l'avoue, mon espoir était au plus bas. D'un seul coup, vous avez transformé l'état de mon âme. Le fait que l'Allemagne, au moment où elle en avait le plus besoin, ait donné naissance à un éclair, témoigne de sa vitalité. Vos actions en sont une preuve supplémentaire, car la personnalité d'un homme et ses actions vont de pair.
Alors, il était ce qui est marrant avec Chamberlain. C'est qu'il était pris dans à propos des Juifs, il était pris dans une contradiction totale. Parce que, alors, il reconnaissait au peuple juif la pureté de la race.
Oui.
C'est-à-dire que les Juifs, se restant entre eux, se reproduisant entre eux, eh bien, ils maintenaient, voilà, la pureté de la race qui était très très bien. Il écrit même que ça mérite le respect. Mais alors, c'est quand même un peu embêtant, parce qu'en même temps, il était aussi extrêmement antisémite. Oui, il écrit, à part quelques rares traits sympathiques, « Il semble que toute la bassesse dont les hommes sont capables se condense dans ce seul petit peuple. Non pas que les Juifs aient été au fond plus abominables que le reste de l'humanité, mais la hideur du vice nous stupéfie dans leur histoire, parce qu'ils s'y montrent tout nus. Donc à la fois, les Juifs étaient formidables, parce que ils se mélangeaient pas, voilà. » Mais ils étaient quand même particulièrement abominables, voilà.
Oui, d'ailleurs, si on continue sur la pensée des intellectuels de l'époque, on peut citer Lapouge. Un très petit nombre d'individus masculins d'une perfection absolue suffirait pour féconder toutes les femmes dignes de perpétuer la race. Exemple.
Alors là, c'était
les Lebensborn
qui ont été
en Allemagne nazie.
Fait en Allemagne, où il y avait effectivement des espèces de centres de production de la race aryenne,
oui,
avec des femmes qui étaient des bonnes reproductrices, hein, qui étaient comme des juments poulinières, on va dire, et qui étaient fécondées par des beaux spécimens aryens. Voilà.
C'est ça.
Alors, il y a aussi un truc qui est très rigolo. Le fameux Lapouge, voilà. Oui. Alors, toujours à propos... Alors lui, non, il reprend sur l'infériorité des pauvres. Et alors, il a une théorie qui est absolument extraordinaire. Cette infériorité physique et psychique, héréditaire dans les classes pauvres, a été expliquée par la misère et d'une manière très ingénieuse, par l'intoxication des cellules somatiques ou de l'individu, et plasmatiques ou sexuelles, origine des générations futures, par les toxines de la fatigue.
Ah oui.
Alors là, c'est quand même extraordinaire, l'invention des toxines de la fatigue, donc d'une espèce de substance physiologique, transmissible, substance... Enfin, encore une fois, les toxines de la fatigue, c'est quand même absolument extraordinaire.
On peut parler aussi d'un autre intellectuel qui s'appelle Hamon, et qui écrit, donc citation de Husson, « Les sans-travail constituent en majorité un déchet inutilisable et sont voués à la mort. » Et il nous parle de la guerre, à la page 218. La guerre, alors écoutez bien, parce que c'est quand même extraordinaire, d'autant qu'aujourd'hui, on nous parle de guerre, partout, hein, et en particulier dans la bouche de Macron. La guerre est accompagnée de grands mots, mais il ne faut pas les exagérer. Au total, la guerre est un bienfait pour l'humanité, parce qu'elle offre aux nations le seul moyen de mesurer leurs forces et d'assurer la victoire du plus fort. La guerre est la forme la plus élevée et la plus grandiose de la lutte pour la vie. Elle est inévitable, donc impossible à supprimer. Comme c'est bien, parce que ça permet de tuer tous ceux qui sont au front. Et ceux qui sont au front, on le sait, c'est pas les riches.
Non. Alors, encore une fois, là, Husson souligne qu'il y a vraiment une biologisation, en fait, du social et du politique. Tout est expliqué par des histoires biologiques. Mmh. Exactement, encore une fois, comme dans la doctrine nazie. Alors, voilà. Donc, si on est pauvre, c'est qu'on a des toxines de la fatigue, qu'on est aussi biologiquement et moralement inférieur. Voilà, il faut donc...
Éliminer
tout ça. Alors, le fameux amon dont on vient de parler, parlons des chômeurs. On se mélange, enfin, on passe un petit peu de la race au chômage, mais bon, ces inutilisables, ils sont soulignés aujourd'hui, on dirait inemployables, ne doivent pas se reproduire. Il faut donc laisser jouer la sélection naturelle au lieu de la contrarier. C'est là une fatalité cruelle, mais indispensable pour le bien commun. Et il est incontestable que par sentimentalisme, nous contrarions souvent la sélection naturelle. Voilà. Alors,
il y a tout un tas d'études, enfin, ou de justifications d'études sur le rapport entre la taille du crâne et les positions sociales, aussi en particulier chez Hamon, etc. Chez Hamon, donc, chez Lapouge. Lapouge qui sera en lien avec Otto Hamon, le fondateur de la dénomination anthroposociologie, qui s'évertue à classer les individus en fonction de critères céphaliques, donc taille du crâne, et de biologiser les phénomènes sociaux. Donc il y a là-dessus tout un paragraphe que Husson cite. On peut aussi parler de du médecin Paul Broca ou Gustave Le Bon qui à leur tour professent donc au sujet des femmes qu'elles sont intellectuellement inférieures parce que leur cerveau est de petite taille. Et Le Bon compare les femmes aux enfants et aux sauvages à la page 222.
Et je reprends aussi le Hamon dont on vient de parler. Donc on sait depuis longtemps que les progrès techniques amènent souvent une surproduction de marchandises avec augmentation simultanée du nombre des sans-travail. Ces derniers ne sont pas une armée de réserve de l'industrie, ça ce qui était la théorie de Marx, armée de réserve, qu'en cas de besoin on rappelle en totalité ou en partie. Ils constituent plutôt en majorité un déchet inutilisables et sont voués à la mort. Voilà. Donc il y a véritablement, depuis qu'on vous parle de ce bouquin, pour parler des pauvres et des chômeurs, un vocabulaire du déchet, encore une fois. C'est les inemployables, les surnuméraires, sont appelés ouvertement de déchets, de détritus. C'est même plus dans l'ordre de l'humanité, encore. C'est véritablement
des sous-hommes.
C'est même plus des hommes, quoi. C'est des épluchures. Enfin, qu'il est nécessaire, d'éliminer ou qui se.
D'ailleurs, ce qui est. Enfin, si on aborde la deuxième partie, Elisabeth.
Oui.
La dernière partie. Les sciences dévoyées. Ce qui est extraordinaire dans cette partie, c'est que Husson nous montre de façon vraiment tout à fait claire l'utilisation des connaissances théoriques et des outils scientifiques utilisés à de pures fins idéologiques au service donc du capitalisme. Et il nous montre à quel point ces textes d'intellectuels peuvent être pris en flagrant délit de travestissement scientifique, en délire idéologique. Ainsi, par exemple, le prix Nobel de médecine, Alexis Carrel.
Le français Alexis Carrel, oui.
C'est ça.
Prix Nobel de médecine en 1912.
Tient les propos suivants. Il est indispensable que les classes sociales soient de plus en plus des classes biologiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un déni absolument, ou plutôt une... Husson emploie le terme de travestissement, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas les conditions économiques, ce n'est pas la position hiérarchique dans la société qui vont générer la pauvreté, c'est pas les riches qui sont responsables de la pauvreté, de tous les prolétaires, les ouvriers, etc. Non, pas du tout. Cette différence est inscrite dans le patrimoine biologique.
Voilà, il écrit, Carrel, donc prix Nobel, il y a même eu pendant longtemps un pavillon de la faculté de médecine de Paris qui a porté son nom, il écrit la répartition de la population d'un pays en différentes classes n'est pas l'effet du hasard, ni de conventions sociales. Elle a une base biologique profonde, car elle dépend des propriétés physiologiques et mentales des individus. Ceux qui sont aujourd'hui des prolétaires doivent leur situation à des défauts héréditaires de leur corps et de leur esprit.
C'est extraordinaire. Et ben voilà. C'est ça.
Il continue d'ailleurs, Carrel.
Oui.
L'être stupide, inintelligent, incapable d'attention, dispersé, n'a pas droit à une éducation supérieure. Il est absurde de lui donner le même pouvoir électoral qu'un individu complètement développé. Les sexes ne sont pas égaux. Il est très dangereux de méconnaître toutes ces inégalités. Le principe démocratique a contribué à l'affaiblissement de la civilisation en empêchant le développement de l'élite. Voilà. Alexis, c'était donc Alexis Carrel. Voilà.
Oui. Et du coup, évidemment, on ne s'étonnera pas qu'il adhère au Parti populaire français d'extrême droite de Doriot. Il préconisait le gazage des criminels.
Et Pétain lui a confié la direction de la Fondation française pour l'étude des problèmes humains, dite Fondation Carrel, qui était chargée d'orienter la politique eugéniste du gouvernement et laisse se développer l'extermination douce qui a consisté à laisser mourir de mort lente plus de 40 000 malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques français. Ça, c'est peut-être un épisode qu'on a relativement oublié, mais sous Pétain, on a laissé mourir de faim.
Oui.
Les patients qui étaient dans les hôpitaux psychiatriques.
Et on sait qu'à l'époque, les pauvres étaient enfermés dans les hôpitaux psychiatriques. Donc, il y en a quand même beaucoup.
Voilà.
Du fait qu'ils étaient pauvres.
Et en fait, non, voilà. C'est pas la fac. Il y a eu un pavillon Alexis Carrel, en fait, à la fac de médecine de Lyon.
Oui.
Et il a fallu attendre 1996 pour qu'on enlève le nom de
Carrel.
De Carrel.
Les théories eugénistes aux USA, on peut peut-être en dire un mot.
Oui. Qui sont extrêmement populaires.
Oui. Dans les milieux intellectuels et politiques américains. Loughlin, scientifique à l'université de Princeton, déclare en 1922, je cite, « Il faut stériliser les faibles d'esprit, les criminels, les épileptiques, les ivrognes, les malades, les aveugles, les sourds, les difformes, les personnes à charge, les orphelins, les personnes à charge,
oui,
quand même. »
Je sais pas ça.
Les orphelins, les bons à rien, les sans domicile, les vagabonds et les indigents. Et il est frappant de souligner que dans ce projet qui date de 1922, la liste qui vient d'être établie, donc qui est ainsi établie, se retrouve dans la loi nazie de 1933. Voilà.
Voilà. Alors, Husson poursuit et il souligne effectivement à quel point l'économie qu'on a le front de nous présenter comme une science, alors qu'il n'y a pas de discipline plus idéologique et plus traversée, enfin de considération, enfin profondément idéologique. Je comprends même pas qu'on puisse oser dire que l'économie est une science, alors qu'encore une fois, elle n'est la plupart du temps qu'un discours idéologique.
Bien sûr.
Donc, il montre... aujourd'hui, on prétend séparer science et idéologie, mais évidemment, c'est totalement aberrant.
C'est en fait, faire ça est un discours idéologique, en fait.
Mais tout à fait. Alors,
on est au chapitre 13. L'économie politique, nous dit Husson, lugubre, forcément lugubre. Il montre que la discipline économique est étroitement liée à des considérations de morale et idéologique. On prétend aujourd'hui avoir séparé science et idéologie. Voilà, c'est ce que tu viens de dire. Voilà.
Ah oui. Alors, par exemple, oui, dans les théories totalement contemporaines,
oui,
et qu'on retrouve aujourd'hui aussi dans tous les discours sur les allocations faites aux pauvres, genre allocation de rentrée scolaire ou allocation de ceci, de cela, que les pauvres sont incapables d'être dans la... dans quelque chose de raisonnable, quoi. Ils vont dépenser leurs allocations, maintenant on va dire, en télé à écran plat, ou ce qu'a dit récemment Macron, en jeux vidéo, je ne sais pas quoi, enfin,
oui,
plutôt qu'en fourniture scolaire.
C'est ça.
Voilà, donc c'est un discours.
Ils sont dispendieux.
Voilà. Et il y a le fameux économiste Irving Fisher qui dit que les pauvres sont incapables d'épargner, ce qui est absolument invraisemblable. Parce que épargner, quoi ? Enfin, c'est quand même... voilà.
D'où l'intérêt de ne pas leur donner beaucoup.
Ben voilà.
Comme ça, il n'y a pas de gaspillage.
Il n'y a pas de gaspillage, et puis il n'y a pas, encore une fois, de dépenses somptuaires, de télévision à écran plat.
Et tu sais ce qu'il a dit, Fisher ? Un truc incroyable. Il a dit que l'eugénisme constitue, selon lui, je cite, la plus haute forme de patriotisme et d'humanitarisme. Voilà, aurait l'avantage collatéral de réduire la charge fiscale en diminuant le nombre de dégénérés, de délinquants et de déficients pris en charge par les institutions publiques.
Voilà.
Donc je pense aux personnes âgées, je pense. Okay. Voilà.
Alors, comment le darwinisme social et les théories eugénistes qui criminalisent les classes sociales défavorisées, théories avancées et justifiées de façon totalement décomplexée par les grands penseurs du 19e et du début du 20e siècle, comment ces théories ont-elles traversé l'histoire jusqu'au 21e siècle? Qu'en est-il aujourd'hui? La France va mal? Cela n'aura échappé à personne. Le déficit public pour 2023 s'établit à 154 milliards d'euros, soit 5,5% du produit intérieur brut. La dette publique a dépassé les 3 000 milliards d'euros au premier trimestre 2023. La situation est grave. La France dépense trop d'argent. On désigne les coupables. En cause, le modèle social français, trop généreux avec les pauvres, le coût considéré comme exorbitant des services publics, l'école, l'université, l'hôpital, la sécu, les prestations sociales, etc. Rappelons que le service public français est au service de l'intérêt général. Il est fondé sur le principe d'égalité et de gratuité. Et c'est précisément en cela qu'il pose problème aux tenants du néolibéralisme. Il est un verrou qu'il faut faire sauter pour libérer le marché de ses freins et de ses pesanteurs. Et les requins sont à l'affût. Le service public est devenu une opportunité d'intérêt qui peut générer des milliards de bénéfices. Dans un premier temps, l'État, au service du capital, va vendre les entreprises publiques au privé, la poste, les chemins de fer, la distribution d'eau potable, la distribution d'électricité et de gaz, l'éducation nationale, la santé, etc., etc. Mais cela ne suffit pas. Le principe de gratuité du service public est montré du doigt. Tout a un coût, nous explique Bruno Le Maire. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Et l'État, clairement, ne veut plus payer pour les pauvres. Rappelez-vous les petites phrases de Macron. On écoute.
À chaque petite phrase, sa nouvelle polémique.
La provocation assumée d'Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron en roue libre.
Il y a des phrases que je regrette. Il y a des phrases qui ont été totalement sorties de leur contexte. C'est une réalité.
Maintenant, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Avec les contraintes du métier.
Ouais.
Ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que.
La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas.
Vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
Quoi ça
hein? Ah non, c'est en Mayotte, les quoi ça.
Tu veux prendre les noms, vous êtes un connaisseur.
Mais le quoi ça pêche peu. Il amène du Comorien. C'est différent.
Les Comoriens et les Franco-Comoriens, les citoyens français originaires des Comores, sont blessés, indignés par ça, par cette maladresse.
La France n'est pas un pays qui se réforme. Notre pays ne se réforme pas. Parce que nos concitoyens, parce que vous, aussi longtemps qu'il est possible de ne pas faire les réformes indiquées par les livres ou les procédures, on se cabre, on résiste. Je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. Parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein.
Emmanuel Macron, un Allemand dans le texte, mais compréhensible par tous. « Je ne suis pas arrogant », proclame le chef de l'État à la une du Spiegel. Avec cette précision, je dis et je fais ce que je veux.
« Je ne céderai pas au triste réflexe de la jalousie française, parce que cette jalousie paralyse le pays. »
Et c'est cette phrase-là qui provoque aujourd'hui, à gauche comme à droite, les plus vives réactions.
Après avoir expliqué que les Français ne supportaient pas les réformes, qu'ils étaient fainéants, qu'ils étaient cyniques, maintenant on apprend qu'ils sont envieux et qu'en réalité, ça serait leur envie qui paralyse le pays.
Les pauvres, les chômeurs sont des fainéants. Ils sont responsables de leur triste sort. Il faut remettre la France au travail. Pour l'État et les détenteurs du grand capital, les prestations et aides sociales sont une lourde erreur, car elles incitent les gens à ne pas travailler. Et pour trouver du travail, c'est facile, dit Macron, il suffit de traverser la rue. Une avalanche de nouvelles lois vise systématiquement les services publics et les populations qui bénéficient des aides sociales. La loi Plein Emploi, précédée de la réforme du Code du Travail, la réforme du chômage, la réforme des retraites, la loi sur l'euthanasie, en cours d'étude, une aubaine pour régler, entre autres, le problème du grand âge qui, nous dit Bruno Le Maire, pèse de plus en plus lourd sur les comptes sociaux. Pour résorber le déficit public, je rappelle que l'État prévoit une économie de 50 milliards des dépenses publiques entre 2025 et 2027. Il organise la casse sociale. Il s'attaque aux prestations, l'APL, l'allocation de solidarité spécifique. Il programme la réduction de la durée de l'assurance chômage et la baisse des indemnités, etc., etc. Par exemple, le gouvernement Macron souhaite réaliser 440 millions d'euros d'économies en matière d'indemnisation chômage des seniors entre 2024 et 2027. À l'Assemblée nationale, le mardi 30 janvier 2024, Gabriel Attal, Premier ministre, déclarait, je cite, « Combattre les trappes à inactivité, c'est, je l'assume, rendre les droits effectifs pour chacun grâce à la solidarité à la source. Mais c'est aussi assumer de réinterroger notre modèle. Je pense notamment à l'allocation de solidarité spécifique qui prolonge l'indemnisation du chômage et permet, sans travailler, nous dit Attal, de valider des trimestres de retraite. Or, nous avons une conviction forte et cohérente. Nous considérons que la retraite doit être le fruit du travail. Par conséquent, nous proposerons la suppression de l'allocation de solidarité spécifique et sa bascule vers le RSA. » Fin de citation. Ainsi, le déficit de la France est instrumentalisé, pour justifier des politiques publiques de coupe dans les budgets de services publics et dans les prestations sociales. Et ceux qui en bénéficient, les pauvres, boucs émissaires désignés, sont présentés comme les premiers responsables de la crise économique. Il ne s'agit donc pas d'une dégradation inexorable du service public qu'il faudrait réformer, adapté aux réalités du monde moderne, en protégeant les populations vulnérables des aléas du marché. Mais il s'agit bien de la mise en œuvre voulue et programmée d'une politique idéologique au service du néolibéralisme et qui a pour finalité le démantèlement, la destruction du service public. Il s'agit clairement de mettre fin au modèle social français qui est au service de l'intérêt général et qui repose sur l'égalité des droits et le principe de non-discrimination. Rappelons que, au même moment, pour l'année 2023, les super-profits des grandes entreprises françaises s'élevaient à 145 milliards d'euros. Ainsi, les résidus non adaptables au système, comme les désignait Wells, c'est-à-dire les personnes qui ne trouvent pas du travail, les chômeurs, les vieux, les familles monoparentales, les étudiants, les malades, les personnes en situation de précarité, bénéficiaires des aides sociales, sont menacés aujourd'hui de perdre leurs droits fondamentaux et se voient de plus en plus privés des maigres ressources qui leur permettaient jusqu'ici de survivre. Fin 2023, selon l'Observatoire des inégalités, 5,3 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté. Selon le CREDOC, Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, en 2022, 16% des Français déclaraient ne pas manger assez à cause de l'augmentation du coût de la vie. En 2018, 16 700 familles ont été expulsées de leur logement, soit une hausse de 54% par rapport à 2006. Pendant ce temps, Bruno Le Maire déclarait sur Europe 1 fin 2023 « Il faut arrêter de noircir systématiquement le tableau de la pauvreté en France ». Ainsi, si le discours cru des penseurs du XIXe siècle contre les pauvres n'a plus vraiment le droit de citer aujourd'hui, il n'en reste pas moins que cette idéologie au service du néolibéralisme est toujours d'actualité et bien présente désormais dans les politiques publiques mises en œuvre. Nous vous remercions d'avoir écouté notre émission Le Grand Soir du Mardi autour du livre de Michel Husson, Portrait du pauvre en habit de vaurien, Eugénisme et darwinisme social, paru en 2023. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, le troisième mardi à 19h30, pour notre prochaine émission. Bonsoir.
D'être trop dodu. Oublions un peu ce qui nous divise. Nous nous conduisons en vrai malotru. Vous êtes un cul. comme une banquise, moi une chemise bien saugrenue. Chemise bien saugrenue. Puisque nous voici comme cul et chemise, soyons la chemise, soyons le cul. Mais en vérité, c'est une surprise que notre amitié y ait survécu.
Y a quelqu'un ? Répondez. Qui est là ? Est-ce moi qui suis là ? C'est pas vrai. Suis-y, je...